R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Ouais, merci d'être là ce soir. Le projet The King's Order to Dance est un... c'est pas un projet que j'ai fait en une fois, c'est plusieurs projets mis ensemble, à la fois par rapport au lieu, mais c'est un projet que prend un peu toute la trajectoire de mon travail artistique. Et j'aimerais peut-être, pour situer ce travail, donner un exemple qui est assez évocateur. C'est que en 2015, quand j'avais été invité à la Biennale de Venise pour pouvoir faire un travail dans le cadre de l'exposition de Cui, je pensais travailler sur des cuivres, sur des cathodes de cuivre qui sortent du Congo. Voilà, les cathodes, c'est vraiment des feuilles de cuivre qui sont produites au Congo et qui sont transportées vers l'extérieur pour être transformées. Et à l'époque, l'idée c'était justement en me posant la question sur la transformation. Il faut savoir que depuis 1910, la Belgique exploitait le minerai au Congo jusqu'aux années 60 et même jusqu'aujourd'hui. Mais tous les minerais qui partent du Congo sortent comme matière brute et c'est des matières qui ne sont pas transformées sur place, malgré l'indépendance. Et donc, pour moi, le fait qu'il n'y ait pas cette transformation pose la question de l'autonomie, justement, qui est revendiquée par toute cette forme d'indépendance, même alors qu'on peut parler que tous ces pays sont indépendants. Et donc, pour moi, ce qui était intéressant, c'était, en réaction à la transformation, l'idée, c'était de pouvoir, en fait, inscrire les traces des cultures Congo sur ces cathodes de cuivre, sur ces feuilles de cuivre, un peu pour marquer la trajectoire, un peu pour marquer la reconnaissance, en fait, de l'origine des minerais, mais avec aussi cette idée de projection, voire même de métaphore, pour se dire que même alors que ces produits pourraient être transformés et aussi mêlés à d'autres produits pour donner lieu à des éléments aux produits consommables ou des produits qui sont généralement revendus sous les labels de la modernité, et bien en son intérieur, ou à l'intérieur de ce produit, aurait encore cette marque que j'aurais gravée sur le produit, ce qui pourrait permettre qu'un jour que je dise, ben oui, j'ai aussi, ou mon territoire aussi, participé à la mise en place de cette modernité dont nous nous revendiquons tous. Et donc j'avais demandé, je cherchais à avoir ces cathodes pour pouvoir inscrire notamment des scarifications, un travail que Sylvain connaît très bien. Je voulais inscrire des scarifications qui sont des traces de culture au Congo, à la fois parce que c'est des traces qui portent un choix politique, un choix esthétique, une marque d'appartenance à la communauté, et donc c'est de commun accord, et ce commun accord fait société en quelque sorte. Et donc je me disais que c'était intéressant non pas d'apporter des éléments ethnographiques, mais juste de marquer ces scarifications sur les cathodes. Et j'avais demandé à Iman justement, parce que c'est des cathodes, ça sort en masse, c'est industriel, j'avais demandé à Iman si c'était possible qu'on achète ces cathodes pour que je puisse les marquer. Et parce que aussi, par exemple, ce qui se passe au sud, enfin à l'est du Congo, on parle de la traçabilité, par exemple, de minerais tels que le coltan qui sert à la fabrication de téléphones, d'ordinateurs, ainsi de suite. Et cette question de traçabilité, pour moi, par le marquage, je répondais à cette question-là, à cette logique-là, depuis ma pratique. Et donc, j'ai demandé à Iman si c'était possible, comme elle a tout son réseau, si c'était possible de trouver les cathodes. Et donc, elle a contacté les mines au Congo. Ils lui ont dit les cathodes ne sont pas vendues au privé et que ces cathodes ne sont vendues que au lot industriel et c'est envoyé à l'étranger. Moi, j'avais besoin peut-être juste de trois cathodes. Mais c'était formellement interdit. Et donc, nous n'avions pas pu avoir ces cathodes. Mais en même temps, j'ai appris que, évidemment, la transformation se passe par l'alliage de plusieurs métaux. Donc, finalement, ce qui sort du Congo est mélangé avec ce qui vient de Chili ou, je sais pas moi, du Mexique et ainsi de suite. Et après, c'est reversé sur le marché. Et à partir de ce moment, je me suis dit, ben, tant mieux. Donc, dans tous les cuivres qui circulent, il y a le cuivre du Congo. Donc, je peux commencer à marquer même sur ces produits finis, toutes les traces des cultures qui sont effacées par la grande histoire. Et donc, voilà, tout ça pour dire que ce travail rentre aussi dans toute cette logique, c'est-à-dire comment est-ce que je regarde la cartographie ou la cartographie du continent, l'Afrique, à la fois comment il change, comment cette cartographie change après la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que avant la Première Guerre mondiale, il y a des pays comme le Cameroun, la Tanzanie, le Namibie, le Rwanda, le Burundi, ce sont des colonies allemandes. Mais après la Première Guerre mondiale, ces colonies deviennent anglaises, françaises, ainsi de suite. Et donc, il y a quelque part une révisitation, au-delà de cette Grande Guerre, il y a la révisitation de la cartographie qui a été instaurée à partir de 1885 à Berlin. Non seulement ça, il y a une extraction forcée de minerais au Congo pendant cette période parce que les obus l'armement est dépendant de cette extraction et de même que il y a des porteurs il y a des milliers de porteurs impliqués dans cette dans la guerre au niveau du Congo, justement par la prise notamment des colonies allemandes, que ce soit au Rwanda, au Burundi ou en Tanzanie, il y a la guerre de Tabora. Et il y a des milliers de porteurs qui décèdent, mais qui ne sont répertoriés nulle part, il n'y a aucun monument à ces morts. Il y a le cuivre qui est ramené en Belgique, où se passe la guerre, notamment à Ypres, qui est ce lieu que je photographie, qui est représenté dans ces images. Et au niveau de la Belgique, il y a également 32 soldats congolais qui font partie de la Première Guerre et qui sont tout de suite emprisonnés par les Allemands et qui vont traverser de campement en campement. Et dont ben justement Rolando proposait qu'on commence par écouter le son de Kujabo, qui est un de ces soldats congolais qui a été sujet d'enregistrement scientifique par les Allemands, par intérêt de comprendre ou de saisir la langue de ces indigènes, quelque part. Et il faut savoir que toute cette collection d'enregistrement n'a pas concerné que les Congolais, mais ça a concerné toutes les représentations ethniques ou raciales qui étaient impliquées dans la Première Guerre mondiale, et mais qui, d'une manière ou d'une autre, étaient attrapées par les Allemands. Et donc, il y a à Berlin, aujourd'hui, une collection de plus de 200 voix des participants algériens, je sais pas, sénégalais et tout ça, et y compris Kouja. Je présente également ce terrarium, le terrarium qui est devant vous, enfin derrière vous, c'est il parle du principe de Walden Case, qui cette boîte inventée au début du 19e siècle qui permettait justement de transporter des plantes dans les régions, dans les nouvelles colonies, dans les nouvelles terres découvertes. Et ces plantes, dans ces boîtes fermées, pouvaient voyager jusqu'en Europe. Et à partir de ça, enfin, ce Guardian Case, il y a derrière aussi l'histoire de Paxton, qui est à la fois un architecte qui va concevoir le Crystal Palace, qui lui-même était botaniste et était très spécialisé dans l'entretien des nénuphars d'Amazonie. Et donc, l'architecture même de Crystal Palace s'inspire des membranes, en fait, ou de la forme même des nénuphars qu'il domestiquait chez lui. Et donc la serre ou par exemple les verrières qu'on va trouver au Grand Palais s'inspirent de Crystal Palace. Et Crystal Palace, c'est aussi des espaces où à la fois on va promouvoir la modernité, mais à la fois on va promouvoir l'intérêt du contrôle des colonies, quelque part. Et les colonies sont représentées sous une forme de domestication. Et donc le terrarium que moi je fais ici, sa forme est tirée de l'étude minérale, en fait, de l'uranium. Et c'est l'étude de l'uranium et tout un ensemble de dessins cristallographiques faits par des géologues belges au Congo. Et à l'intérieur, c'est toutes les plantes. Ici en Europe, c'est appelé des plantes domestiques, mais chez moi au Congo, c'est des plantes qu'on trouve dans les zones cuprifères et aussi dans les zones équatoriales, qui sont pas forcément des plantes domestiques, mais qu'on appelle plutôt des plantes sauvages parce qu'on les trouve dans les prairies, j'ai grandi avec ces plantes. Et c'est vraiment entre deux, justement, que je mets en exergue ici. Et cela se met aussi en écho avec la vidéo qui se trouve en bas, que vous pouvez voir, qui porte sur toute la pensée de l'agriculture qui a été mise en place pendant la période coloniale, notamment au Congo, mais aussi en Amazonie ou en Indonésie, parce que tous ces pays sont traversés par la ligne équatoriale, et le Congo est un de ces pays à avoir la forêt, et ce qui se passait pendant la période coloniale. Mais déjà, toutes les premières expéditions coloniales avaient pour mission de collecter les données climatologiques, parce qu'il était très important, justement, comment comment s'installer dans les zones dites tropicales, il était important de contrôler, d'observer le climat pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir produire, pour pouvoir le transformer dans un dispositif de production. Et évidemment, c'est la zone tempérée qui traverse justement l'Europe et l'Amérique du Nord qui va devenir la référence à la fois en termes de climat et en termes de modalité de production. Et donc, dans les tropiques, ce qui va se passer, c'est comment on va reproduire le climat tempéré dans la construction, d'où l'architecture tropicale. C'est comment l'architecture tropicale va permettre l'acclimatation du blanc, en gros, du colonisateur. Les Belges, en l'occurrence, ils vont régulièrement aller en Indonésie ou en Amazonie, apprendre autant des colonies hollandaises que des colonies britanniques, pour pouvoir adapter ces techniques d'acclimatation au Congo. Et non seulement ça, c'est comment ils vont aussi créer des espaces d'expérimentation agricole, mais non pas pour le local, mais pour l'international. Et encore une fois, on est dans ce dispositif international. Donc, je crois que je parle trop, mais tout ça pour dire que, enfin, mon travail, il cartographie en quelque sorte tous ces éléments de la consommation et de la production, tout en réintégrant les histoires des exclus, en quelque sorte. Voilà. Et la petite histoire, par exemple, c'est que effectivement, il a été enregistré pendant la Première Guerre mondiale. Mais tous ces chants n'ont jamais été traduits, donc il n'y a pas de traduction. Il existe néanmoins des disques qui ont été produits, dans lesquels on a juste donné les titres de chaque morceau, plus le descriptif de ce qu'on entend, que ce soit le tambour. Et ce sont ces titres que j'ai assemblés et qui constituent en fait le spoken word ou le poème qui se trouve là, justement, qui, bizarrement, parle de la question de la réparation.
Oui, merci pour l'invitation. Je suis content d'être ici. Ah, je vais parler plus fort parce que j'ai le microphone. Je pensais qu'il y avait des haut-parleurs, mais c'est seulement pour la radio. Pour moi, c'est très important de comprendre ce qui arrive ici avec toutes les technologies d'appropriation coloniale. C'est l'enregistrement ethnographique qui essaie de classifier et approprier toutes les musiques du monde, particulièrement en Allemagne, mais ils vont pas aux colonies. Ils font les enregistrements en Europe quand ils trouvent des gens, et surtout dans les expos coloniales. Et aussi le Watt Case et la Serre comme un monument de l'impérialisme européen, où les gens de la métropole vont pouvoir être et dans la nature du monde appropriée par l'Empire. Alors le sujet impérial, c'est un sujet qui peut se balader dans les serres comme le Crystal Palace et être en contact avec les natures du monde et devenir le propriétaire, the owner du monde. Et c'était ça aussi le projet du panorama atmosphérique, de reproduire le climat du monde et que le sujet impérial puisse avoir accès au climat du monde, à la nature du monde. C'est la même chose pour le jardin zoologique et le jardin d'acclimatation ici en Paris, qui va devenir aussi le centre des expositions des zoologiques humains, où les gens du monde vont être en exhibition comme des animaux pour produire le pouvoir impérial. Alors c'est la création de la blanchitude qui arrive là, qui arrive dans la possibilité de approprier et exhiber, faire une exhibition de la nature et des mondes des autres mondes. Alors pour moi, pour nous dans la décolonialité, le colonialisme c'est ce procès qu'on appelle plus généralement colonialité, qui est la perte des mondes et la perte de la terre, le mondicide, le terricide, pour construire le monde de la modernité. Et je trouve, Sami, dans ton travail, que tu adresses directement cette blessure, de ces façons très, pour moi, très violentes d'appropriation de la terre, des plantes, dans des wards. Les wards, c'était aussi les lieux pour l'esclavage. Et comment l'appropriation devient un spectacle dans la modernité. C'est une transformation très alarmante, comment quelque chose qui est en origine très violente contre la nature, même l'extraction des minéraux de la terre, devient quelque chose que nous, qu'on apprend à disfruter, à avoir plaisir. Alors c'est le plaisir de l'écocide, le plaisir du racisme qui transforme le sujet moderne impérial. Et une des conditions pour que ce plaisir arrive sans une conscience de la violence, c'est l'effacement et l'oubli. Alors pour moi, ton travail, Sami, c'est une lutte contre cet effacement, contre cet oubli. Alors cette voie qui était là pour une appropriation ethnographique, pour une classification, devient ici une voie qu'on doit honorer, qui est plus comme un monument de mémoire et une lutte contre l'oubli. Je ne sais pas si tu le vois comme ça.
Oui. Oui.
Et c'est une critique très forte contre le sujet impérial. Mais il faut nommer le sujet impérial parce que il constitue cette réalité. C'est le pouvoir qui est derrière cette réalité qui produit l'oubli. Et c'est pour ça que lutter contre l'oubli, c'est nommer aussi le sujet impérial, que c'est un sujet qui n'est jamais nommé. C'est ça le problème. Le sujet impérial nomme le monde, mais il ne se nomme jamais. Il racifie les autres, mais il se nomme jamais comme blanc. Alors il faut parler de la blanchitude et de la positionnalité et comprendre que cette technologie-là, c'était pour le plaisir du sujet colonial qui est construit sur la violence des autres. Et le travail exactement d'une esthétique décoloniale, c'est prendre le point de vue qui a été nullifié pour adresser cet oubli qui se configure comme la blessure coloniale. Alors pour moi, ça m'y retourne, cette logique avec une esthétique décoloniale.
Moi, je vais repartir sur le fait que et c'est là que je vais évoquer Moudimbe, par exemple, parce que mais il faut aussi déjà dire que la colonisation vient avec l'abolition en fait de l'esclavage. Donc, on va plus prendre des corps, mais on va plutôt occuper des territoires quelque part et installer une forme de modernité dans ces territoires même. Et c'est là que, Moudimbe, c'est un philosophe congolais, justement, qui a travaillé notamment sur la question de la bibliothèque coloniale, comment, justement, elle classifie, elle personnifie ou cartographie, l'autre. Et il parle de comment, en fait, déjà les cités ou les espaces urbains ou les espaces urbanisés au Congo sont déjà des espaces d'exclusion, donc de tout ce qui va être considéré comme comme juridiction traditionnelle. Donc tout ça va être exclu. Donc les cités indigènes, ça va être appelé des centres extra-coutumiers, c'est-à-dire que ça ne répond plus du tout à la réglementation des communautés traditionnelles vivant dans le territoire. C'est des espaces d'abord par lesquels on va commencer à récupérer tous les bannis des villages ou des communautés, tous les prisonniers ou tous les évangélisés vont être pris de là, de toutes ces structures locales pour être amenés dans ces centres extra-coutumiers. Dans lequel on va créer les nouvelles valeurs qui sont basées sur le christianisme et qui sont enfin et c'est l'Église catholique qui va avoir le monopole de l'éducation pardon. Et il va se créer cette nouvelle mémoire qui est affiliée à la modernité. Et les espaces progressivement vont être aussi en quelque sorte revisité par la présence de la mission qui va occuper la place centrale dans le village, ce qui va faire que c'est l'Église qui prend le dessus. Les jeunes enfants vont très tôt être évangélisés, ils vont être internés et ainsi de suite. Et l'Église prend le dessus quelque part sur même le pouvoir traditionnel. Et donc j'évoque ça parce que ça complexifie en fait le lien à la modernité, parce que elle n'est pas que au niveau de l'Occident, mais c'est même au niveau de territoire, c'est que dans le dispositif même de lignage, c'est-à-dire que par exemple, les chefs qui ont résisté à l'occupation ou à la présence coloniale, ils ont été décapités. Enfin, on a fait tout un travail, notamment sur les restes humains, où on retrouve des chefs qui ont été tués et remplacés, non pas par les héritiers, mais par des gens qui vont être soit de communautés de l'environnement, et tout d'un coup, tout le rapport de pouvoir, tout le rapport précolonial va être complètement déraciné et recomposé. Et c'est pour ça, par exemple, au Congo, on parle de chefs médaillés. Les chefs médaillés, c'est tout des gens que, par exemple, Stanley a rencontrés et à qui il a remis des médailles, mais qui sont en fait des formes d'appartenance en fait au pouvoir colonial. Et aujourd'hui, même quand il y a les grandes réunions au niveau national, au Congo, on retrouve ces chefs médaillés, parce que c'est avec cette médaille-là qu'ils se revendiquent être héritiers ou pas aujourd'hui. Donc, ils ont recomposé, en fait, toute la considération par rapport au territoire. Moi, je pense que c'est cette crise-là, justement, c'est de ça que je parle, dans la mesure où, évidemment, déjà au niveau, c'est ce lien entre le centre urbain, l'espace rural, et comment tout ça est complètement explosé, en quelque sorte.
Et ça a une relation très directe avec le vidéo qu'on a ici, nous. l'instrumentation d'une agriculture industrielle pour les métropoles, qui détruit le monde relationnel préexistant et qui détruit aussi la forêt, par exemple pour la production du caoutchouc qui est nécessaire pour la ville et pour la guerre aussi.
Oui, il y a aussi la question, en fait, de la transformation de l'environnement, soit. Mais même, je dirais, l'éradication, encore une fois, l'effacement des savoirs des autochtones, en fait. Et que, par exemple, l'espace qu'on voit dans la vidéo n'est pas l'espace, n'est pas un environnement originel, donc. Et il est dit que cette forêt équatoriale, elle est d'abord abattue pour pouvoir être remplacée, parce que on donne tout un ensemble d'explications sur comment cette forêt sauvage non maîtrisée va produire des dégâts par rapport à une agriculture qui se veut mondiale, et comment il faut remplacer ça par... Et donc, pour moi, cette vidéo montre justement à la fois la dévastation en fait de l'environnement, mais aussi comment justement le corps noir va être amené à produire un mécanisme presque d'automate qui va répondre aux besoins justement de cette mondialisation, et qui va produire aussi un mécanisme d'oubli quelque part, parce que on revoit dans les images contemporaines qui sont là en train d'annoter encore une fois toutes les données climatologiques, mais dans un système qui ne fonctionne pas en fait, et ce n'est pas un système dans lequel eux-mêmes sont au contact de la nature, eux-mêmes sont en contact avec leur propre savoir, eux-mêmes ont confiance avec le fait qu'il y a une relation qui peut s'établir avec le territoire. Mais là, en l'occurrence, ce qui est produit, c'est un héritage, un automatisme qui est produit en fait de l'oubli, quoi.
Oui, pour moi, un moment qui préexiste ce moment-là au Congo, c'est les plantations aux Caraïbes, où on voit ce système émerger. On voit la transformation d'un écosystème dans une monoculture pour la production industrielle, pour la production d'un système de marchandises mondiales, et aussi l'esclavage, l'exploitation des corps noirs, notamment pour la production industrielle. Alors pour moi, dans la plantation, c'est un modèle d'extraction de la vie des autres et de la vie de la terre pour produire la marchandise globale. Et je pense que dans ces vidéos-là, on voit ça. On voit la transformation d'un monde communal, relationnel, dans une plantation, avec un discours scientifique qui réduit les relations profondes à la Terre, au climat, à la climatologie, à l'adaptation et à la productivité, et qui laisse de côté la destruction de la pluralité de l'écosystème et des mondes vie, ou ce que parfois on appelle les mondes terre. Les mondes relationnels avec la terre et les savoirs avec la terre, que la modernité va progressivement annuler et remplacer pour créer cette globalisation eurocentrée et capitaliste.
J'avais travaillé le panorama atmosphérique, qui est ce projet présenté à la Biennale de Venise Architecture. Et en fait, le panorama atmosphérique, c'est un projet qui n'a pas eu lieu, qui était pensé par l'architecte Henri Lacoste, un architecte belge. Et c'était pour l'exposition universelle de 1935 à Bruxelles, où il avait pensé un pavillon qui répondrait les différents climats qu'on trouve au Congo. Mais comme à l'époque, il n'avait jamais été au Congo, il avait même pensé à un espace dans lequel on trouverait le climat désertique. Et il avait aussi prévu le panorama de Kilimandjaro, qui n'est pas au Congo. Et en même temps, dans ce projet, il avait aussi prévu qu'il y aurait des habitants, qu'il y aurait les cours d'eau, qu'il y aurait des pirogues. Donc il avait fait tout un ensemble de croquis. Et ce pavillon, je sais pas si,
comment fait son,
mais je sais pas si il est là. Ce qui était quand même intéressant avec le pavillon, c'est que à l'extérieur, on voyait très bien la façade. Sur la façade, il était mentionné quelques minerais qu'on pouvait exporter, tel que le cuivre. Il y avait aussi le bois. Et donc, le projet n'a pas été sélectionné, mais je pense que l'intention était là. Parce qu'entre temps, il a quand même ce même architecte, l'image n'est pas dedans, ce même architecte avait déjà construit 3 autres pavillons, toujours dans les cadres des expositions internationales. Et voilà. Enfin, pour moi, c'est un peu ce qui m'a intéressé en amenant à nouveau ce projet. C'est ce projet-là. C'est comment, justement, toute cette quête de contrôle climatologique, en tout cas le climat, pour, et c'est dit aussi dans le film, vers la fin, il y a un discours, quoi, justement, du commentateur qui dit que il n'y a pas de richesse au Congo, il faut le créer. Et c'est comment, justement, par le contrôle et encore une fois, la transformation qu'on va arriver à créer, les richesses, et là, en l'occurrence, c'est le climat, c'est la représentation, justement, de tout ce type de vie au Congo. Et au niveau de la façade, il y a évidemment tous les produits qu'on peut tirer et qu'on peut exploiter. Mais ce qui est assez intéressant, par exemple, aujourd'hui, quand on commence à parler de crise écologique ou alors de crédit carbone, en fait, ça pose la question pour moi, et ce par rapport justement à la question de la modernité, c'est comment, notamment l'exploitation de l'huile de palme, comment ça détruit le paysage aujourd'hui au Congo. On a toutes ces érosions qui s'amènent. On a la terre qui n'arrive plus à produire parce que je sais pas. Et comment finalement on arrive à cette forme de crise écologique ou de crise climatologique, en fait, qui est très très liée à cette obsession en fait du contrôle, et comment tout ça est le même projet qui est pour moi problématique, parce que ça ramène à comment réinvestir cette relation au territoire, à l'environnement, et comment penser au savoir, aux autres savoirs, en fait.
Je pense qu'il y a une question là qui est très, très importante à ce moment-là, que c'est que les gens qui, on dirait, contrôlent ou dominent le discours du climat et de l'écologie, sont pas nécessairement des gens qui s'intéressent au colonialisme. Et même parfois, ils nient la connexion entre colonialisme et la destruction de la terre. Et je pense que, oui, moi, j'ai eu une expérience où un texte qu'on avait fait pour préparer un atelier était, le mot de colonial a été effacé parce qu'il voulait parler seulement du climat, pas du colonialisme. Alors, il y a ça qui arrive maintenant. Tu vois, on peut pas parler de race ou de colonisation en même temps que de climat et d'écologie dans quelques secteurs. Alors moi, je pense que ton travail est très important là pour montrer que c'est des procès parallèles. C'est la même pensée qui a produit la crise climatique où on est et la crise sociale où on est aussi. la inéquité sociale vient avec la destruction de la terre aussi. C'est la même source de la violence ou d'un projet anthropocentrique, eurocentré, qui est à l'origine. Et pour moi, c'est très important à ce moment-là montrer la connexion entre les deux. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup d'écologistes qui sont très nécessaires dans leur science et tout ça, mais qui refusent de parler de la connexion avec le colonialisme. Veux-tu qu'on parle un peu sur le rôle de la mémoire pour toi et la lutte contre l'oubli comme une façon de pour faire art? Je pense que dans les débats de l'esthétisme décoloniale, on met beaucoup d'intérêt sur ça parce que on trouve que, par exemple, la notion de contemporanéité, c'est pas une notion qui nous amène à la mémoire. C'est une notion qui nous projette au futur, normalement, et qui met un très haut prix pour la nouveauté. C'est comme une continuation de la pensée moderne. Et quand on fait un art qui est centré dans une lutte contre l'oubli, ça, pour moi, ça dépasse la conception de la contemporanéité et sa généalogie eurocentrée ou de l'esthétique moderne. Alors, je voulais te demander sur le rôle de la mémoire et que je vois dans les plans, les minéraux, les histoires, les voix.
Après, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'espace des spéculations, en fait. Si on parle de tous ces mondes qui ont été inventés, on peut aussi réinventer les choses. En fait, on a le droit d'inventer. Je pense qu'il y a, évidemment, toutes ces sciences, toutes ces classifications du 19e, et notamment l'ethnographie, l'anthropologie, et qui deviennent justement des espaces par lesquels on peut arriver à expliquer l'autre. Et ça, on peut le voir même dans ce qui est de l'ordre de l'histoire de l'art. Quand on commence à parler de l'Algérie ou des Congos, tout ne commence qu'avec la présence coloniale. Il est difficile de retracer avant tout ce qui est avant, et soit retourner à l'ordre de primitif, ou soit, enfin, on va trouver chaque fois les arts premiers, on va chaque fois changer des noms, parce que il est tellement difficile de se débarrasser de ces carcans ethnographiques, tu vois, parce que c'est le propre, c'est et la manière dont on va expliquer justement toutes ces productions d'avant, c'est via via l'observation des cultures. C'est comment ces objets fonctionnent dans les cultures telles qu'on les a identifiées, observées. Et j'ai fait justement ce travail avec le Museo della Civiltà à Rome et le musée Palazzo Pitti. Ce qui se passe, je m'étais intéressé notamment aux premières collections, et c'est un travail fait par un historien d'art italien, Enzo Bassani, qui lui répertorie l'entrée des premiers objets africains en Europe vers la fin du XIVe siècle déjà. Et évidemment, ces collections rentrent avec les congrégations jésuites qui voyagent, et notamment au Congo, on trouve déjà des premières collectes qui se font avec les congrégations jésuites. Et quand ça arrive, ça va constituer notamment, ça va rentrer dans des collections, des cabinets de curiosité, ou alors des collections telles que le Circariano Museum qui se trouvait en Italie. Et notamment à la construction de Capitolini, le musée Capitolini, il va y avoir des objets aussi africains qui vont être présentés dans ces premiers. Et ce qui est intéressant avec justement le musée, et peut-être que Matteo pourra mieux l'expliquer, c'est que au moment de l'unification de l'Italie, mais tout ce qui était de l'ordre de et des collections qui avaient déjà intégré les premiers musées vont être récupérées comment il s'appelle encore, Bigorini, qui est un ethnologue, et on va voir tout ça, mais tout ce qui précédait en fait l'ethnographie va se retrouver dans l'espace ethnographique, ou alors on peut observer ce qui n'était pas repris dans le cadre de l'ethnographie était soit relégué à l'anthropologie ou à l'histoire des sciences naturelles. Donc il y a une reclassification. Il y a quelques ivoires qu'on a retrouvés qui sont même dans le musée des Uffizi, qui sont des olifants qui venaient du Congo en 1530, qui sont passés par le Portugal et qui sont des cadeaux diplomatiques. C'est peut-être par exemple les seuls éléphants qui gardent encore leur premier caractère, qui est celui de le cadeau diplomatique. Parce que ailleurs, on va les retrouver dans les sciences naturelles, soit dans les institutions ethnographiques. Pourquoi je dis ça? Et ensuite, il y a aussi le cas d'un autre militaire italien qui va s'engager pour le compte de Léopold II, qui va, vers la fin du XIXe siècle, participer à la réprimande de la force publique qui est l'armée coloniale contre les mouvements, les revendications des Batetela et tout ça, ils vont faire des razzias. Mais pareil, ils vont collecter, et notamment cet Italien va ramener une partie de sa collection. Il n'est ni anthropologue, ni c'est un militaire, c'est tout simplement un militaire, qui a collecté suivant ses goûts et ses attentes. Et à la fin de sa vie, il a fait don de toute cette collection au musée de l'Université d'ethnographie et d'anthropologie de Florence. Ces objets, en 1922, quand il va y avoir la Biennale de Venise, finalement, et qu'on se rend compte que l'art africain est peut-être intéressant, on va présenter ces objets. Autant ce qui venait des congrégations jésuites du XVIe siècle, que ce qui a été pillé au Congo fin 19e, tout ça va se retrouver comme œuvre d'art à la Biennale de Venise en 1920. Et après avoir été présenté comme œuvre d'art, ça va retourner à leur ancien statut d'objets ethnographiques ou d'objets anthropologiques sous vitrine. Pour moi, c'est là que, pour revenir à la question de la spéculation, c'est là que ça m'intéresse, moi, c'est comment les objets changent, en fait, de discours ou changent de vie, de trajectoire, en fonction de celui qui raconte, de celui qui fait le récit, et comment, en faisant un récit, on peut contredire un autre récit, ce récit dominateur, en fait, quelque part. Mais pour moi, ce n'est pas dans comment redonner le sens par l'ethnographie ou dans un contexte qui n'est pas existant, qui est d'office écarté. Mais c'est comment on peut créer le récit tout en contredisant, par les contradictions mêmes de ce grand discours. Oui, c'est à la fois, il y a la question de la mémoire, mais il y a aussi la question de reprendre, en fait. Donc, comment je reprends?
Ça me fait penser à deux choses. Aux Pays-Bas, il y a un grand débat, je sais qu'aussi ici, sur la fonction des collections ethnographiques. Et une des questions, c'est comment resignifier la collection. Comment une collection qui était fonctionnelle pour reproduire la différence coloniale peut devenir une collection qui peut parler des mondes oubliés, qui peut faire présence de ces mondes. Et aussi, je pensais à ce que tu disais sur les traces sur le cuivre, les scarifications. Et si on pouvait imaginer ces objets ethnographiques comme des traces qui peuvent raconter, pour commencer, l'histoire coloniale, qui normalement, il n'était pas là pour raconter l'histoire coloniale. Il était là pour, par exemple, dans le musée ethnographique de Leiden, un des premiers musées, il était construit pour entraîner les fonctionnaires coloniaux. Avant qu'ils partent dans les colonies, ils devaient aller à ce musée-là pour être entraînés. C'était l'entraînement de la colonisation, la fonction. Et après, on pourrait dire que la fonction était la construction du regard blanc. Les gens allaient au musée ethnographique pour devenir blancs eux-mêmes, pour voir l'autre comme une exhibition, l'exhibition de l'autre. C'était ça, sa fonction. Alors comment, avec un autre discours, une autre temporalité aussi, on peut faire ces objets le lieu de naissance d'autres, une autre forme de conscience, au moins la marque des traces qu'ils ont des sociétés qui ont été nullifiées ou effacées. Et alors, nous, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de débats sur la possibilité de retracer ces mondes-là, mais aussi le travail du deuil. Parfois, c'est pas possible récupérer les langues perdues ou les mondes relationnels ou les écosystèmes. Mais alors, il y a un grand travail de deuil qui aussi part, trouve un lieu dans les arts. Mais c'est ça ce que je voulais te raconter.
Ouais.
C'est avec ta rencontre avec tous ces objets-là en Italie, tu voyais ces possibilités-là de les faire raconter des choses. Ces collections-là n'étaient pas faites pour raconter l'histoire coloniale ou pour honorer les mondes relationnels. Elles étaient faites pour collectionner, pour le pouvoir d'appropriation, je dirais. Pour moi, rentrer ici au Quai Branly et voir cette vitrine gigantesque, pleine d'instruments, qui sont en silence, ça me cause une grande douleur. Parce que l'instrument sent sa musique. Et aussi, il faut dire son écologie, parce que l'instrument, normalement, c'est une relation avec les arbres, avec une ancestralité. Et quand l'instrument devient seulement un objet d'exposition ou de collection, ça veut rien dire. Ça devient un témoin de cet effacement, de cette énorme violence de la collection impériale. Et c'est aussi dans le débat des retours des objets rituels que normalement les pouvoirs qui ont ces objets veulent qu'ils retournent au pays, mais qu'ils rentrent dans une case de musée, dans une vitrine, qu'ils ne redeviennent pas des objets rituels pour les communautés, ou ils vont disparaître parce qu'ils ont un temps de vie, ils doivent vivre. Et la préservation dans les musées, c'est une idée de préserver quelque chose qui doit être mort pour être préservé, ne doit pas changer, doit arrêter d'être vivant ou en relation, en communauté. Et pour moi, c'est complètement contre la nature de l'instrument musical, l'avoir dans une vitrine avec un numéro de classification, comme avoir ces 50 tambours où il y a personne qui laissait jouer et qui ont perdu toute sa vie relationnelle. Et c'est encore la pensée, moi je dirais même de la métaphysique occidentale, de la modernité, de le culte à l'objet comme une chose matérielle qui est fixe, qui peut être collectionnée en dehors de ses relations, contre les autres cultures, beaucoup d'autres cultures qui pensent l'objet seulement en relation. L'objet est quelque chose en relation, et en relation avec les gens de la communauté, avec les ancêtres, mais aussi avec la terre. Et sinon, ça veut rien dire. Un objet tout seul comme ça, ça veut rien dire. Et alors pour moi, oui, on parlait de ça à Bruxelles. Pour nous, c'est ce que je parlais avec Samy avant de commencer la conversation, c'est comment la serre, et le Wild Case et le Crystal Palace, c'est vraiment un lieu où on trouve l'enjeu entre l'appropriation et la représentation qui vont substituer les mondes relationnels. La modernité va approprier et contrôler la représentation du monde de façon que l'Afrique devient une image produite à l'Exposition universelle à Paris et commence à contrôler l'expérience du monde. C'est ça ce qu'on parle de l'esthétique moderne. L'esthétique moderne, c'est le contrôle de l'expérience du monde. Et la décolonisation de l'esthétique, c'est retrouver les autres expériences du monde qui ont été annulées par ce contrôle de la narrative, comme tu disais, ou ce contrôle même de l'expérience du monde.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que tu m'aides, parce que j'ai pas toutes les informations, en tout cas en tête, sur... Gnosis, ça vient en fait de... C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage de Moudimbe sur l'invention de l'Afrique. Knowledge and Gnosis. En fait, toujours bon le titre. Mais il parle de la hiérarchie des savoirs, mais et comment en fait justement Gnosis est plutôt ce dispositif de connaître de l'intérieur, de produire depuis l'intérieur, et que ce savoir il est presque une dévotion, comme ça, c'est comme une mission où on s'émancipe par cette connaissance depuis l'intérieur, et non pas cette connaissance qui est proposée de l'extérieur, qui est imposée. C'est un peu comment tous les discours africanistes, et comment même les discours qui se produisent par les Africains répondent finalement aux terminologies ou à la pensée occidentale et aux terminologies, à l'épistémologie en fait occidentale. Mais ce n'est pas une pensée qui est produite depuis la connaissance intérieure du continent lui-même. Et ce qui était intéressant, c'est que, et c'est là que je vais avoir besoin de toi, parce que la première fois que j'ai voulu travailler sur ce projet, j'ai vu ce cabinet de Cosimo dans lequel il y avait ce globe terrestre avec les premières cartes, en tout cas, je pense que c'est ça, avec les toutes premières cartes. Et donc, c'est quoi ce cabinet? Comment il s'appelait?
Le studio avec Cosimo Prima.
Voilà. Qui se trouve à Florence, c'est ça?
Oui.
Donc, il est ici, là, on a toutes les cartes. On a aussi une des cartes du continent africain. Et si on regarde très bien, on y voit des personnages qui ont des têtes de monstres, en fait, sur le continent. Et je trouvais ça assez intéressant parce que ça rejoint aussi tous les discours du 18e et 19e, avec notamment cet Allemand qui a été au Congo, tout en remontant, enfin, il y a eu toute cette épopée où on voulait comprendre jusqu'où allait le fleuve Nil et qu'on remontait, et ce premier qui va rencontrer les Azandés, qui va établir le dispositif de cannibale, et qui va devenir, en fait, une des normes par lesquelles on va parler de l'Afrique. Et donc, je faisais le lien entre, notamment, cette première guerre d'Afrique où on a des têtes de monstres, en fait, dans le cabinet de Cosimo, et notamment ces expéditions premières d'ailleurs de ce, j'ai oublié encore une fois le nom, c'est tellement de noms. non, je veux dire l'exploration de cet Allemand qui a ici qui a rencontré pour la première fois les Azandés et les Mangbetu. Et il a fait les premiers croquis. C'est même pour ça que, par exemple, l'expédition de Smithsonian va se faire aussi sur les traces de cet Allemand qui a fait les premiers croquis des Azandés et des Mangbetu. Et tout ce qui va s'en suivre comme production scientifique, ça va chaque fois encourager ce dispositif de cannibale et comment on va commencer à représenter justement les personnages. Il y a même l'expédition de Citroën qui s'est fait en 1925 pour lequel par la suite on a commencé à avoir des mascottes avec la tête des Mangbetu, le personnage qui lui met au Congo. Ça commençait à représenter. Et donc tout ça, c'est sur toute une production littéraire en fait qui s'est faite au fil du siècle et des années, tout en se renforçant les unes sur les autres, et à créer finalement cette idée ou cette image de l'autre. Et donc, en visitant le studio Lo, ce qui était assez intéressant, comme c'est un très vieux globe, donc, fait avec des peintures qui s'assombrissent maintenant, qui sont en train ça a pris toute une couche de patine comme ça, et c'est devenu presque noir, on n'a plus à voir. Et donc le studio là a été fermé pour rénovation. Et je trouvais assez intéressant que ce globe finalement il devenait noir, et j'ai décidé justement de créer cette sphère qui est à la fois très très noire, sombre, mais réfléchissant, avec toute cette idée de comment on se projette nous-mêmes à la fois par rapport au monde, par rapport à nos projections qui peuvent être sombres quelque part. Et donc je l'ai mis, la sphère a été placée dans ce qui était aussi un cabinet, c'est ça. Mais je voudrais surtout terminer pour revenir à la question de la crise écologique. Il va y avoir la COP, je sais pas moi, Barclays, j'ai vu dans un article où justement il est dit que je crois que les Émirats qui vont organiser les prochaines COP ont acheté une part de forêt au Libéria, justement en forme de crédit carbone, je sais pas. Et donc c'est assez intéressant de ce que c'est là.
C'est des trous de dollars.
Ben c'est ça. Et j'avais vu Turkish Airlines, ils écrivent sur leur avion traveling, donc genre que le fuel est bio.
Oh, oui.
Et donc il y a cette possibilité de que le kérosène est bio. Donc voilà, je pense que ça reproduit le même mécanisme de d'arrachement de territoire au service d'une production d'une certaine élite par rapport aux autres.
Mm-hmm.
Bah, et les Arabes étaient déjà au Congo. Hein. Il y a la partie de Maniema, toute la propagande, par exemple, et encore, si tu veux, au parc de cinquantenaire, c'est là que tu vois très bien qu'il y a même ce monument, justement, où c'est fait à l'honneur de Léopold, et c'est dit où t'as toutes ces populations noires qui disent merci à Léopold d'avoir sauvé les Arabes. En fait, il y a tout un travail.
C'est le premier argument de Léopold.
Bah oui, ça c'est toujours, des Arabes. Et quand tu vas dans la partie nord-est, il y a des vêtements. Il y a tout un travail d'une archéologue, Noémie Arazi, qui est en train de faire avec un photographe congolais, sur les vestiges de présence arabe au Congo. Et on trouve des musulmans, des personnes qui se reconnaissent de cette...
Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, ouais. Je pensais surtout à majorité musulmane.
Oui, mais là, chez eux, ils sont majoritaires.
Ouais,
tout le monde, antenne tout le monde.